Rendez-vous.
Nouveau.
Ce soir.
Mais quelle ouverture! Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est le nouveau rendez-vous, votre magazine de la double soirée. Double, parce que ça commence à 18h en podcast, que ça recommence de 22h à minuit, à l'antenne comme tout le monde. Double, parce que c'est en deux temps. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et en ce lundi 13 janvier, eh bien on prend de la hauteur pour commencer la semaine. L'actu ce soir, c'est alpinisme, le revers du versant. Le 11 décembre dernier, l'alpinisme a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela va changer, notamment en ces temps de réchauffement climatique? Et puis on va revenir ce soir sur les aventures et les tragédies que vivent les alpinistes. On va parler Himalaya, Nanga Parbat, avec nos invités Benoît Lagane.
Oui, Elisabeth Revol, alpiniste qui publie « Vivre ma tragédie au Nanga Parbat », qui vient donc de paraître chez Artaud. Eliane Patriarca, journaliste indépendante, longtemps à Libération, spécialiste de l'alpinisme et des questions environnementales, et qui a aidé Elisabeth Revol pour l'écriture de ce livre. Jean-Marc Rochette, qui se destinait au métier de haute montagne, mais qui a raccroché pour la BD. Et après Elle froide et Le loup, publié chez Casterman, il publie aussi un catalogue d'expo, Vertige, publié chez Daniel Magain. Et puis Pierre-Henri Fragne, philosophe et spécialiste de l'esthétique de la montagne, mais qui habite en Bretagne. Et il est l'auteur, entre autres, de l'alpinisme, paru aux presses universitaires de Rennes.
Et puisque vous êtes communiste, Benoît Lagane, vous allez partager votre micro aujourd'hui avec Marion Guilbeault. Marion Guilbeault, sur le plan musical, une star ce soir.
Ah, une grosse star, c'est la Danoise Agnès Obel. Son album Myopia ne sortira que dans quelques semaines. Je vous confirme, c'est un sommet de pop sophistiqué. Ça sortira le 21 février. Mais on a déjà un titre en live, un titre en avant-première dans le NRV à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, cette semaine, France Inter plus de Philippe Catherine. 4 jours avec le chanteur-acteur à la banane qui publiait cet automne son album Confession. Le NRV, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Elisabeth Revol, il y a presque 2 ans, en février 2018, vous avez été sauvée par 3 grimpeurs polonais sur le Nanga Parbat au Pakistan. C'était dans des conditions extrêmes, hein, on se souvient, dans l'Himalaya. Vous aviez perdu votre compagnon de cordée, Tomek Makiewicz. Vous venez de publier « Vivre » où vous racontez cette tragédie et votre reconstruction. À quel moment vous avez compris qu'il fallait en passer par l'écriture ?
Ça s'est fait au fil du temps. Je pense que c'est le temps qui fait l'effet dans tout ce processus finalement. Quand on vit un deuil, on a un accident sur la montagne, il n'y a que le temps qui fait ça. Et donc c'est petit à petit en fait, quand je suis rentrée, j'ai commencé à écrire. J'ai vu que ça me faisait du bien de poser simplement les mots sur tout le traumatisme que j'avais vécu. Après, j'avais pas pensé à écrire un livre dans un premier temps. Et c'est venu petit à petit au mois de juin, j'ai commencé réellement à y penser. Puis après en septembre de l'année 2018, où là j'ai décidé de réellement écrire un livre et de publier ce livre.
Vous avez été accompagnée psychologiquement aussi durant ces 2 dernières années?
Exactement, oui, je pense qu'il n'y avait que ça qui pouvait faire quelque chose, j'avais pas le choix. J'étais tellement au fond du gouffre qu'il me fallait une aide extérieure et donc oui, j'ai été suivie à ce moment-là.
Double aide extérieure, puisque Eliane Patriarca, vous l'avez aidé à accoucher de ce récit. Quel a été précisément votre rôle?
Au début, je pense que ça a été de l'écouter. Tout simplement, comme journaliste, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à l'hôpital à son retour. Et puis de discuter de l'importance de mettre ses propres mots par rapport à tous les récits qui avaient pu être faits dans la presse, dans les médias, sur des éléments et des moments qu'elle était seule à avoir vécu et seule à pouvoir raconter.
Jean-Marc Rochette, vous avez fait de l'alpinisme, vous deviez être guide de haute montagne, et puis vous avez tout arrêté à suite d'un accident. Vous avez lu le livre d'Elisabeth Revol, on vous l'a transmis. Vous, la bande dessinée, par ailleurs, travailler la montagne, ça a été frontal, mais très longtemps après, vous, avec Elle froide, c'était en 2018 à peu près. C'est ça. Donc, il vous a fallu aussi du temps pour écrire vraiment sur la montagne.
Moi, d'abord, j'étais à une époque, j'ai arrêté l'alpinisme en 67-77, j'avais 21 ans. Et c'était pour faire de la bande dessinée, et quand je suis arrivé sur Paris, je parlais un peu de mes histoires d'alpiniste, et on était en pleine période punk, donc j'en parlais à des copains dessinateurs et tout, et ça n'intéressait absolument personne, quoi.
Ah oui, à ce point-là.
Ah oui, bah, c'est-à-dire qu'ils étaient pas du tout dans le truc, quoi. Pour eux, c'était entre le Boy Scout et le militaire. Enfin bon, ça les intéressait pas. Et donc, j'ai décroché, quoi. Et puis, comme j'étais quand même très addict à la montagne, j'ai décroché vraiment, comme quand on arrête de fumer, quoi. J'allais même plus me balader en montagne, moi. Et puis les années sont passées, et puis un jour j'ai raconté une histoire comme ça à mon éditrice, Christine Cam, et elle m'a dit, mais ça peut être intéressant, quoi. Donc c'est un peu, j'ai vu qu'il y avait un petit intérêt, ou un gros intérêt, c'est comme ça.
Comment vous avez compris le travail d'Elisabeth de 2 ans après la tragédie, de raconter comme ça l'événement, comme elle le fait?
Bah, disons que elle a vécu une tragédie comme on en vit très très peu, quoi. Donc j'ai pas de... j'imagine ce que ça doit être, quoi. Enfin, j'imagine pas, non, d'ailleurs. Et donc, effectivement, de mettre ça sur le papier, ça doit faire du bien. Enfin, moi, je sais que ça m'avait fait du bien de faire Elle froide 30 ans après. Donc, c'est des traumatismes énormes. Hein. Même à mon niveau, quand on perd des amis en montagne, dans les écrins, ce qui m'est arrivé, c'est des traumatismes. Hein. Et là, c'est le traumatisme le plus grand, quoi.
Vous avez arrêté, mais Elisabeth Revol, vous n'avez pas arrêté, en fait. Vous continuez.
Moi, j'ai repris parce que je savais que ma thérapie, en fait, la fin de ma thérapie se passerait par le retour à la montagne, forcément. Donc, moi, j'avais déjà eu un accident, une expérience d'accident en 2009, malheureusement. Et j'avais arrêté pendant 4 ans, et au final, ça avait laissé un espèce d'abcès qui avait macéré à l'intérieur de moi, et c'était pas la solution. Donc, je savais que mon retour passerait forcément par la montagne pour crever cet abcès.
Et donc, le renouvellement, repasser par la montagne, ça a été quelle expédition?
C'était sur l'Everest, et ça m'a tout simplement permis de revivre et de prendre de la distance par rapport au Nanga Parbat.
Sur un plan intime, c'est-à-dire?
Exactement, sur un plan intime. Après, voilà, moi, j'ai repris contact simplement avec moi-même, je me suis reconstruite et j'ai envoyé, comme je dis, un petit peu par les drapeaux à prière, un petit peu toute l'amertume que j'avais à la suite du Nanga Parbat.
Pierre-Henri Fragne, comment vous regardez ce travail, justement, des alpinistes à l'écriture? C'est pas la première, Elisabeth Revol, à écrire sur cette pratique. Ce besoin, c'est vital pour l'alpiniste d'écrire après un accident ou la disparition d'un compagnon de cordée?
Je fais la même chose à un niveau bien moindre, bien moindre de l'alpinisme, puisque, j'en fais depuis 20 ans. Moi, je suis arrivé sur le tard, en haute montagne. Et, il faut comprendre. Même quand moi j'ai pas eu d'accident, hein, j'ai la vision solaire de l'alpinisme, alors que vous deux vous avez eu le versant nord, si je puis dire. Moi j'ai le versant sud, plus facile, plus riant, plus solaire. Mais il y a quand même des moments de difficulté, il y a des moments de souffrance, de solitude. Et je suis professeur de philosophie, mais je pense que c'est indépendamment de ça. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et les souvenirs sont tellement denses, même quand ils sont pas absolument traumatisants, qu'il faut les coucher sur le papier, alors sous forme d'écriture, sous forme d'image. Moi, c'est sous forme de récits aussi, c'est sous forme de réflexions philosophiques, c'est sous forme aussi d'images photographiques.
Alors, de nombreux médias se sont fait l'écho de l'accident et de votre sauvetage il y a 2 ans, en janvier et février 2018, lors de l'ascension du Nanga Parbat, on se souvient.
France Inter.
C'est un sauvetage à peine croyable qui vient de se dérouler dans l'Himalaya. Celui d'une alpiniste française de 37 ans.
Elisabeth Revol sauvait in extremis ses griffes de l'un des sommets les plus dangereux de l'Himalaya, le Nanga Parbat.
La montagne tueuse, son surnom au Pakistan, 8125 mètres d'altitude.
Le soulagement, mais aussi la douleur d'avoir dû abandonner son compagnon de cordée, le polonais Tomek Makiewicz.
Deux alpinistes très expérimentés, mais une fois arrivés au sommet, la descente a tourné au calvaire, victime d'un œdème pulmonaire et cérébral. Son collègue ne peut plus avancer. La Française lance un appel au secours. Elle est à ce moment-là à plus de 7000 mètres d'altitude. Il fait moins 30 degrés et c'est une équipe polonaise qui est venue voler à son secours.
Elisabeth ! Reste ici !
Elisabeth Revol, avec le recul, comment vous avez vécu la médiatisation mondiale qui a eu lieu autour de cet accident? Je vous pose cette question parce que vous écrivez « J'ai revécu et mieux compris ce qui s'était passé pour Tomek et moi sur le Nanga en 2018, après le sommet. L'intérêt que suscite le drame en montagne auprès des médias et d'une partie du public, le show en direct offert par les réseaux sociaux. »
Oui, pour moi, ça a été le drame dans le drame, finalement, ouais. Parce que moi, j'ai toujours été un petit peu loin de la médiatisation, donc pour moi, ça a été forcément un retour très agressif. Sachant que voilà, sur la montagne, moi j'ai pas pu maîtriser une communication parce que j'étais déconnectée de tout et j'étais simplement en communication avec Ludovic Giambassi, mon routeur. Donc quand je suis arrivée, j'étais dans un espèce de marasme que j'avais pas pu contrôler. C'était un petit peu parti dans tous les sens avec l'instantanéité des informations qu'on a sur les réseaux sociaux et dans les médias actuellement. Donc oui, moi c'est une période qui a été extrêmement agressive pour moi.
Eliane Patriarca.
Mais je crois surtout que dans l'histoire de l'alpinisme, alors Pierre-Henri Fond, vous pourriez confirmer peut-être, mais c'est la première fois, ce qui est arrivé en 2018, c'est la première fois qu'on a suivi en direct une catastrophe, un accident, et les sauvetages, le sauvetage. Parce que c'est le premier, on va dire, sauvetage 2.0, avec les réseaux sociaux extrêmement présents. Et on est beaucoup, effectivement, à avoir suivi en direct. Et ça a propulsé instantanément l'histoire partout dans le monde, avec les dérives aussi que ça peut entraîner.
Pierre-Henri Frogne.
Ceci dit, ça fait partie de l'histoire de l'alpinisme. 1865, hein, c'est la catastrophe du Cervin, et ça fait un scandale mondial, européen et mondial. Hein. Edward Whymper arrive au sommet du Cervin, en descendant, il perd quatre de ses compagnons sur une cordée de 7, il doit sa vie sauve à la rupture de la corde, et ça fait un scandale absolu, dans la mesure où ça met le doigt sur le caractère proprement étonnant, problématique de l'alpinisme, c'est-à-dire à quoi ça sert de monter des montagnes en risquant de mourir. Et donc, ce qui est arrivé à Elisabeth, je pense que ça fait partie du processus de l'alpinisme depuis sa création, au début du 19e siècle. C'est un sport engagé et qui d'ailleurs c'est la raison pour laquelle l'alpinisme a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. C'est que s'y joue l'existence humaine, s'y joue la valeur de l'existence humaine, et donc il y a une universalité de l'alpinisme. C'est un modèle de la vie humaine comme une suite d'épreuves.
On reviendra sur cette idée du patrimoine immatériel, mais par rapport aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux, il y a le côté positif aussi, parce qu'il y a eu un élan de solidarité pour vous sauver, Elisabeth Revol, grâce aux réseaux sociaux et grâce à ce 2.0 finalement.
Oui, exactement. Il y a vraiment eu les deux côtés, du côté très positif et du côté très négatif. Mais effectivement, sans les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu la campagne de crowdfunding et donc, du coup, il n'y aurait pas eu de secours tout simplement sur la montagne. Donc, alors, effectivement.
Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre aussi, c'est que vous dites que l'alpinisme n'était pas une passion pour vous, c'était devenu une drogue. Vous parlez même de boulimie des sommets. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'alpinistes qui grimpent comme ça par addiction ? Comment vous comprenez ce terme d'addiction que vous avez à votre sujet ?
Bah disons que moi je me suis re-questionnée par rapport à ma pratique.
J'imagine,
et
ouais.
Finalement pourquoi j'y allais, et je me suis rendu compte que j'étais dans un processus où je pouvais plus dire non et je basculais d'objectif en objectif sans forcément avoir le retour et à me poser réellement les bonnes questions sur le pourquoi j'allais sur ce sommet à ce moment-là. Donc à partir de là, je me suis dit mais ma passion allait aller trop loin parce que je peux plus l'arrêter, je peux plus la freiner. Mais j'ai envie de dire, c'est le milieu en fait de passionnés qui parle, je pense, à de nombreuses personnes. Comme quelqu'un peut être passionné par son métier, et finalement, c'est la dérive de la passion, jusqu'où on va dans cette passion-là, quoi.
Vous saviez toujours où vous alliez, Jean-Marc Rochette?
Moi, j'étais très très jeune, hein. Donc j'ai commencé à grimper, j'avais 15 ans, et j'ai fini, disons, à 21 ans, et donc moi j'étais dans une addiction complète, hein. C'est-à-dire que j'ai vu...
Ça vaut aussi le même terme, hein.
Absolument, mais moi, tous mes copains, on avait tous laissé tomber les... Moi, je suis de Grenoble, hein, donc ils avaient tous arrêté le lycée, on faisait que grimper à la carrière, et puis c'est tombé comme à gravelotte, hein. C'est-à-dire que les gens mouraient beaucoup. Dans les années 70, le niveau technique était très 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 limite, on va dire. Et donc moi, il a fallu que j'ai un gros accident pour m'arrêter net. Hein. Pas tout de suite. D'ailleurs, j'ai fait une saison derrière où j'avais plus de dents, donc on me reconnaissait bien dans le massif. Et puis après, j'ai arrêté. J'ai commencé. Mais moi, j'ai eu la chance de faire la bande dessinée, c'est-à-dire d'avoir un métier qui m'a au moins autant passionné que la montagne. Voilà.
L'accident, c'était aussi dans la descente, parce que tout à l'heure, vous parliez du fait que c'était dans une descente qu'il y avait eu cet accident dans les années
1865.
Et vous, pareil, pour vous, c'est dans la descente. Pourquoi dans la descente c'est plus compliqué?
Souvent, le sommet, c'est dans l'objectif. Les gens se relâchent. Enfin, dans les descentes. Les descentes, il y a quand même des...
Surtout,
il y a un truc qui est très dangereux dans les descentes. Là, je parle pas pour... C'est les rappels. Il y a énormément de gens qui meurent dans les rappels, hein, parce que c'est pas toujours très sain. Et puis, moi, c'est une chute de pierre, hein, donc ça aurait pu être dans la montée. Hein, mais
Elisabeth Revol.
Oui, je pense que souvent, on a tendance à beaucoup donner en fait pour aller au sommet, et on se rend pas compte qu'après le sommet, il y a encore un autre sommet à gravir, c'est la descente. Et donc, quand on a atteint le sommet, on a fait que 50% de la course. Donc, il faut pas oublier ce paramètre, surtout quand on est en très haute altitude.
Non, la désescalade est plus difficile, en tout cas pour moi. On est fatigué. On a fait le principal, c'est ce qu'on pense, en tout cas. Et l'accident arrive souvent à la descente.
Je vie à l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée. Le temps s'est envolé, a cessé de couler. Les jours passent comme de l'eau à mes pieds immobiles. De grandes roues dentelées semblent me regarder. Le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante. La nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds, près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. Le maître dit respirer. Au loin il passe des trains qui jamais ne m'emmènent dans la gare oubliée, la ville et souvenirs. En vain chante ce train et je sais où il mène, dans la gare désertée. Chante un autre avenir. L'amour suit son cours et le cours à ce jour. Le maître a dit rester. Les saules coulent des branches qui doucement se penchent sous les lueurs du ciel. Tendrement reflétée, si parfois une rose semble dire quelque chose, c'est chuchoter au cœur, et seulement quand elle ose, pas besoin d'autre chose, pense tes échymoses, ne pense plus à ces choses, c'est là que tu te poses, ton voyage t'a l'ordi, oiseau du paradis. Et le cours d'aujourd'hui, c'est va donc la retrouver, va donc la retrouver, va la retrouver, va la retrouver.
Du Jean-Louis Aubert. Mais c'est du Jean-Louis Aubert pur jus sur cette balade à la guitare acoustique dans laquelle il chante les regrets, l'amour et un temps révolu. Programmation téléphonée de Jean-Baptiste Audibert.
Le nouveau rendez-vous.
Ce qui est important, c'est de garder bien tout le temps, quoi qu'il arrive, de bien garder la tête sur les épaules. En football, il y a des règles du jeu. En général, si ça va mal, on se déboîte un ménisque. À ski, on se casse une jambe. En montagne, on se tue. C'est du tarif réduit, du courage à très bon marché, soi-disant d'avoir le goût du risque, c'est une bêtise. Ce qui est important, c'est de faire des choses bien conscientes.
Laurent Goumard, sur France Inter.
Mais c'était Gaston Rebuffat. Grande figure des années 50. Alors l'alpinisme ou le revers du versant, c'est le sujet du Énervé ce soir. On en parle avec nos invités, l'alpiniste Elisabeth Revol, l'auteur de BD Jean-Marc Rochette, la journaliste Eliane Patriarca et le philosophe Pierre-Henri Frogne. Tous d'ailleurs alpinistes, hein, sauf vous et moi, Benoît
Oui,
Magane.
C'est ça.
Pourtant, moi, je suis presque né à la montagne. J'étais dans le Vercors pendant 10 ans de ma vie et c'était vraiment un problème, en effet. On ne va pas parler que d'accidents ce soir, mais juste une question. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent à propos des accidents, et ça revient à chaque fois, l'inconscience de la pratique de l'alpinisme et de la haute montagne, Elisabeth Revol? J'imagine que vous avez entendu ces critiques.
Oui, forcément. Après, est-ce que j'ai une réponse à donner Je sais pas. Après, c'est pas simple en fait de se positionner parce qu'on est tellement dans une passion qui est là au fond de soi qu'on a du mal du coup à mesurer un petit peu les choses. Mais après, c'est sûr que c'est quelque chose que j'entends surtout dans notre société actuelle où justement on a tendance un petit peu à nous ranger dans des cases et à contrôler un petit peu tout le risque. Donc forcément, on ne va pas comprendre une vie risquée d'un montagnard qui part un petit peu...
Mais c'est des questions qui se posent aujourd'hui au niveau de l'encadrement, Pierre-Henri Frogne et ensuite Eliane Patriarca.
C'est un sport à risque, mais c'est un sport d'extrême prudence, d'extrême réflexion. On pèse chacun de ses gestes, chacun de ses pas.
Aujourd'hui, hein, ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait quand même des têtes brûlées hein, à votre époque, Jean-Marc Rochette.
Bah oui, c'est-à-dire que l'alpinisme, je dis plus les gens sont jeunes et plus ils sont.
Ouais, ça c'est normal.
Dans tous les sports, la moto, etc., ouais. etc.
Mais vous racontez quand même, vous faites partie d'une génération qui est peut-être encore plus froid aux yeux qu'aujourd'hui. C'est ce que vous avez un peu raconté dans un entretien.
Je sais pas, mais la montagne était différente, le matériel était moins bon, on acceptait plus le danger, il y avait moins d'assurance, on en parlait tout à l'heure avec Elisabeth sur les relais, tout ça, tout était un peu aléatoire, quoi. Et puis, on acceptait ça, enfin, en tout cas, dans la vallée du Vénéon, c'est une question qui se pose même pas, tout le monde fait de l'alpinisme, c'est un métier, les gens ont fait que cette vallée est devenue ce qu'elle est devenue parce qu'il y a eu des Anglais qui sont venus et qu'il y a des guides qui les ont emmenés, c'est une passion, c'est un métier, ça fait partie de l'ADN des gens, donc c'est une question qu'on pose en ville, mais qu'on pose pas en montagne.
Il y a plus de risques à faire Rennes-Chamonix en voiture, comme je le fais, qu'à faire un sommet en haute montagne sous la direction d'un guide professionnel. J'en suis parfaitement convaincu. Mais je le répète, l'alpinisme c'est un art, avec ses règles. Alors évidemment, comme c'est un sport qui devient un sport de masse, mais il y a de plus en plus de gens qui montent dans l'inconscience la plus complète, avec les incompétences les plus graves. Moi, je me risquerais pas sur un glacier, je me risquerais pas sur une arête de rocher sans mon guide professionnel, parce que je connais mes limites, qui sont grandes. Et je pense que
vous avez commencé l'alpinisme à quel âge?
Une quarantaine d'années.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, oui, très tard.
Et pour quelle raison?
Bah parce que comment dirais-je, j'ai fait de la marche en moyenne montagne depuis l'adolescence. J'ai fait des vacances dans les Aravis avec mes enfants, avec mon épouse. Et puis de loin, je voyais le Mont Blanc, je voyais les glaciers. Et puis un jour, je me suis dit, c'est quand même trop bête, il faut essayer. Alors comme tout le monde, je dirais pas comme tous les imbéciles, j'ai monté le Mont Blanc comme première expérience. Ce qui est idiot, parce que le Mont Blanc doit accomplir et consacrer une carrière.
Pourquoi c'est idiot?
On a pu la commencer.
Elisabeth Revol, pourquoi c'est idiot de commencer?
Bah parce que ça reste pas une course très classique et je pense que c'est plus l'altitude symbolique et puis un petit peu le toit de l'Europe qui fait qu'on va sur cette course-là, mais dans le massif il y a des courses qui sont beaucoup plus esthétiques, je trouve, que le Mont Blanc à faire. Donc voilà,
on est pris par le mythe du sommet du toit de l'Europe, mais c'est une bêtise, je vous le dis franchement.
Eliane Patriarca, vous avez fait quoi vous êtes monté où?
Alors j'ai fait le Mont Blanc, mais après.
Ah, voilà. Voilà, moins bête. Moins bête.
Non, parce qu'effectivement, j'étais pas attirée. Ça a correspondu à un moment précis de ma vie où là, ça avait un sens. Moi, en fait, je pense que ce que j'y recherche, en tout cas, c'est aussi une reconnexion avec soi-même qu'on n'obtient que dans ces conditions. Pour moi, qu'on n'obtient que dans ces conditions-là, dans ce milieu-là, et confronté aussi à ses limites, vraiment.
Alors Elisabeth Revol, il y a des montagnes, mais il y a aussi des styles, et vous racontez que vous étiez fière en 2018 d'entreprendre le Nanga Parbat en style alpin. Que ça correspondait mieux à votre philosophie de la montagne, c'est-à-dire?
Ça veut dire quoi d'abord, style alpin?
Alors le style alpin, ça veut dire qu'on y va par nos propres moyens. En gros, on prend notre maison sur le dos et on avance sur la montagne en fonction de ce qu'elle nous autorise finalement. Donc ça veut dire qu'on va pas poser des cordes fixes en amont, on va pas prendre de l'oxygène et on va pas se faire aider par des sherpas. Donc c'est le style en fait qu'on pratique dans les Alpes, d'où le nom style alpin.
D'accord, voilà. Ok. Il y a d'autres styles, donc, par exemple. Mais je vais vous laisser continuer. Mais d'autres styles, par exemple,
oui,
style
exactement,
alpin.
Oui, exactement. Ça s'oppose en fait au style commercial, au style plus lourd, au style style du début en fait des expéditions himalayennes où on partait en grande caravane. C'était aussi l'aventure, l'inconnu. Donc il y avait une caravane de porteurs qui nous suivait. Il y avait des cordes fixes qui étaient posées sur la montagne et il y avait l'oxygène qui était utilisé parce qu'il y avait l'inconnu de l'altitude qu'on maîtrisait pas à ce moment-là.
Donc le style alpin correspond mieux à votre philosophie, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que moi j'ai toujours pratiqué en fait le style alpin dans les Alpes. Donc quand je suis allée en Himalaya, pour moi c'est le style qui s'est imposé naturellement à moi et je voulais pas me faire aider sur la montagne. Je voulais y aller et me découvrir par mes propres moyens là-haut.
C'est d'ailleurs le style alpin qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. C'est pas l'ensemble des expéditions qu'on voit dans l'Everest avec les cordes fixes, les sherpas sans nombre, etc. Parce qu'il y a une sorte de pureté de ce style qui fait que les alpinistes, les deux alpinistes encordés l'un à l'autre, qui ont lié leur destin, sont dans la montagne face à elle, dans une sorte d'épreuve commune.
Jean-Marc Rochette.
Oui, et puis c'est le style alpin, c'est la sûreté, c'est la vitesse, c'est la fameuse histoire de Troussier et Lorettan sur le
Trollet,
enfin, et Lorettan sur l'Everest.
Pas si fameuse que ça, donc si on se trompe sur leur nom.
Trollet.
C'est fameux en quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que pour moi aller l'Everest, il fallait pas être lourd, il fallait être très léger. Même la nourriture, c'est Lorettan qui disait on mange pas, donc c'est pas la peine de prendre trop de nourriture. Et ils ont été très très vite, quoi. Très très vite, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait en...
43 heures.
43 heures avec une descente, on dit, sur les fesses, c'est ça ?
Exactement.
En 3 heures, non ?
Oui, en 3 heures.
En 3 heures, voilà. Donc je m'y connais un petit peu quand même.
Je connais même le nom.
Et donc,
elle est fameuse,
elle est fameuse parce que ça a été le style alpin pur, c'est-à-dire très peu de poids, on ne dort pas, on avance, et ils ont quand même vu des... Il a quand même vu
des hallucinations.
Des hallucinations quand même.
Et ils bouffent des marmottes sur le terrain, c'est ça le truc.
Je crois qu'ils ont vu des danseuses brésiliennes en haut de l'Everest quand même.
Et Elisabeth Revol, vous êtes partie avec quoi justement ? On parlait de très peu de nourriture.
Et ben justement, on est parti avec très peu de nourriture. Nous, on a privilégié en fait le gaz pour se faire fondre de l'eau et pour avoir un moment de chaleur parce qu'on était sur des hivernales. Mais en nourriture, on avait quelques lyophilisés et puis quelques amandes à grignoter, mais on n'avait pas grand-chose sur la montagne. Donc on part dans un mode qui est dans tous les cas très light. Et on perd du poids en altitude. Après, on refait le plan au camp de base.
Tiens, ça, c'est pour toute l'équipe, ça serait pas mal.
C'est un lieu dangereux. Hein. Et donc, c'est un lieu où on est invité. On est invité et il faut monter et il faut redescendre très vite. Alors, je n'ai pas l'expérience d'Elisabeth hein, dans les sommets de plus de 8000 où effectivement on est dans la zone de la mort, où on risque l'hypoxie, etc. Moi, je suis plus confortablement installé dans le massif du Mont-Blanc, si je puis dire. Mais même dans le massif du Mont-Blanc, il faut aller vite, il faut partir très tôt, minuit, 2h, 3h du matin. Et puis à 14h, il faut être redescendu, parce que sinon, la glace fond, les pierres se détachent. Et donc c'est une course, à tous les sens du terme et au sens de rapidité. Hein,
mais monter à l'Himalaya, en fait, on peut le monter aussi en plein été, j'imagine. Il n'y a pas que l'hiver, Eliane Patriarca. Il y a une différence véritablement entre monter en hiver, monter en été, j'imagine.
Il y a une énorme différence et l'hivernal tel que la pratique Elisabeth, c'est on va dire le sommet de la difficulté. Quand on est sur des 8000 mètres, c'est aujourd'hui la pointe de l'alpinisme extrême.
Donc le monter en été, ça sert pas à grand chose en fait. C'est moins prestigieux, c'est ça ? Enfin, c'est moins...
Non, c'est très bien de le faire en été. Après, voilà, moi, c'était une autre inconnue que, du coup, j'avais découvert en 2008. Et donc, forcément, après, dans ma pratique d'Himalayisme, j'ai voulu découvrir une nouvelle inconnue. Et c'est sûr que moi, les hivernales, ça m'a toujours questionné, ça m'a toujours fait rêver. J'avais lu les récits de Jean-Christophe Lafaille. Et je voulais voir un petit peu mes limites par rapport à ce type de conditions et voir qu'est-ce que voulait dire aussi le jet stream en hiver et quel type de conditions je pourrais avoir et qu'est-ce qu'une température négative et est-ce que le corps peut supporter ces températures. Donc moi, c'est sûr que j'avais beaucoup de questions à l'intérieur de moi et c'est pour ça que je suis allée découvrir cet inconnu. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'intérieur de soi pour pouvoir supporter aussi ce type de conditions. Si on n'a pas cet objectif, on ne peut pas y aller tout simplement.
Puis c'est l'alpinisme professionnel. C'est-à-dire qu'il faut toujours reculer les limites, il faut aller à la performance. Évidemment, moi je suis un peu extérieur à ce monde-là, puisque moi je fais ça en amateur. Alors, ce qui ne veut pas dire que Elisabeth, elle n'aime pas, puisque c'est le sens du mot amateur, elle n'aime pas la montagne, mais moi je suis en amateur au sens où je l'aime et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de profession, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'enjeu. Sinon la beauté du geste et l'expérience humaine que ça procure.
Jean-Marc Rochette, vous dites que vous n'étiez pas fait pour être un alpiniste professionnel. C'est ce que vous avez dit dans un entretien. Vous vous sentiez pas vous l'aviez cru à un moment donné ou c'est juste l'accident qui a fait qu'après vous l'avez...
Je crois que j'étais fait pour être un dessinateur hein, dans la fameuse histoire où je suis tombé en face nord de en face nord d'Elfroide, au moment où je pensais que j'étais cuit, j'ai pensé que j'allais mourir et que c'était dommage parce que j'aurais dû être un dessinateur. Donc c'est à ce moment-là, quand tu es dans une situation un peu extrême, la seule chose qu'on pense, c'est pas je vais pas avoir d'enfant, je vais mourir à 18 ans, c'est tiens, j'aurais dû être dessinateur.
Oui, mais on repense sa vie d'une autre façon.
Quand on arrive en bas, on repense sa vie totalement différemment. Hein, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et après, j'ai continué à grimper. Mais c'est vrai que j'ai des copains qui sont guides et qui font ce métier très bien. Je pense que ça m'aurait moins plu que de créer des œuvres. Mais pour venir à je pense que on fait des choses comme Elisabeth fait parce qu'on est capable de les faire. C'est-à-dire que devant une paroi comme ça, il y a ceux qui moi par exemple, je suis devant une paroi de 4000 mètres, ça me vient même pas à l'idée de monter dessus. Je sais que c'est pas pour moi, quoi. Mmh. Et puis il y a des personnes pour qui c'est leur truc, c'est ils peuvent le faire et donc ils le font. C'est des athlètes et c'est admirable.
Vous avez déjà ressenti un sentiment de peur, j'imagine. Oui, après l'accident, c'est ça peut-être qui a arrêté le fait que vous repreniez véritablement. La peur s'est installée.
Bon, la peur, des fois on n'a pas peur, des fois on a peur. Je me souviens d'avoir eu ce qu'ils en appellent le mal des rimets, c'est-à-dire c'est un truc, c'est les grimpeurs le soir on n'est pas bien, le matin on est encore moins bien et il y a une montagne qui s'appelle le Coulisse des Bancs qui était à l'époque assez raide et j'ai eu peur avant et puis dedans j'ai eu peur aussi. C'est une journée où j'ai eu peur toute la journée quoi et c'est bon, je m'en rappelle, c'est une journée de peur et d'autres fois on fait des trucs super, on n'a pas peur.
Le mal des
Rimé, ouais.
Vous l'avez eu aussi, Elisabeth Revol?
Ah bah complètement. Je pense que ça fait partie de l'alpinisme. Si on pratique pas, si on n'a pas eu le mal des rimés, c'est qu'on n'est pas alpiniste. Donc effectivement, il y a des fois où on a un petit peu cette boule au ventre, mais c'est aussi ça qui nous pousse et qui nous motive à aller là-haut, où on sait qu'il y a une longueur qui va être la longueur clé, comme on appelle. Et souvent, on veut y aller justement dans cette longueur clé parce que voilà, après il y a une sensation qui, si on réussit cette longueur, qui est assez incroyable. Et justement, on est concentré. Sur ces mouvements, on est concentré sur le moment présent et c'est ce qu'on va rechercher là-haut en fait.
Mais qu'est-ce qui a déclenché pour vous, Elisabeth Revol, ce désir de grimper? Parce que vous aviez le poster, vous racontez dans le livre, le poster de l'Everest gamine dans votre chambre, mais l'Everest et l'alpinisme, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... On part dans cette passion particulière.
Je pense que voilà, moi, c'est vraiment les rêveries que j'avais de l'enfance et puis un petit peu ce terrain impossible et inconnu qui me faisait rêver et du coup un petit peu cet interdit qui questionne et où on a envie d'aller. Et donc quand j'ai eu 18 ans et que là j'ai commencé à grimper en même temps que mes études STAPS, je me suis dit ouais, la grimpe c'est fait pour moi. Et après quand j'ai mis un pied en montagne sur un glacier et plus haut, c'est tout un nouveau monde en fait qui s'est ouvert à moi et ça m'a passionné parce que c'était déjà ancré dans mon enfance et dans ces rêveries là.
Moi, ce qui m'a emmené à l'alpinisme, c'est autre chose. Je crois que c'est le blanc et le bleu en fait. C'est-à-dire que quand on est en bas, il y a des couleurs tout ça. Et la première fois que je suis monté, c'était au col de la un col dans les écrins, j'ai vu les bancs par la tranche. À l'époque, il y avait beaucoup de glace. Hein. Et j'ai vu cette espèce de dague de glace blanche et bleue là. Et je me suis dit, je veux être dans ce milieu, ce blanc et ce bleu. Et d'ailleurs, je pense que le blanc et bleu, et surtout dans l'Himalaya, plus tu montes, plus ce blanc et bleu il est prégnant. Et c'est une espèce de couleur du paradis, quoi. C'est la couleur de la Vierge, tout ça. C'est le blanc et le bleu, c'est pur, quoi.
Aussi mystique ce choix pour vous, Eliane Patriarca?
Je dirais pas mystique, mais en tout cas aussi lié au paysage, oui, et à l'incompréhension qu'on a face à ce qu'est une montagne et à la capacité d'une montagne à être le témoin de la vie des hommes depuis des centaines d'années. C'est toujours très impressionnant. Et puis de découvrir les formes que la nature revêt, que la roche revêt. Moi, c'est plus sensuel, j'allais dire, que mystique.
Je vais rester sur la mode de sensualité parce que c'est le cas de cette voix voilée, un ton intimiste, le chanteur canadien Patrick Watson, Dream for Dreaming.
This dream. Won't you wake me up tonight? 'Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream I'm dreaming. If it ain't wrong, it don't feel right. Never thought. Never thought I'd have to start again.
À part les accidents, quand est-ce qu'on parle d'alpinisme ? Très rarement. La recherche de reconnaissance pour faire connaître et reconnaître une activité, c'est nécessaire.
L'alpinisme est entré au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO.
Patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Et c'est grâce à la France, à l'Italie et à la Suisse qui ont collaboré d'arrache-pied depuis 2011.
Concrètement, France Inter, qu'est-ce que ça change ?
Le réchauffement climatique induit des gros changements dans le terrain.
Le nouveau rendez-vous ? Laurent Goumard.
À un moment, si on a besoin de moyens, financiers ou humains, pour mettre en œuvre ces mesures de sauvegarde, on aura plus de facilité à les obtenir.
Ça y est, l'alpinisme est un patrimoine. On en parle dans le NRV ce soir avec nos invités, l'alpiniste Elisabeth Revol, l'auteur de BD Jean-Marc Rochette, la journaliste Eliane Patriarca et le philosophe Pierre-Henri Frogne. Juste dans ce générique, on a entendu quelque chose autour du réchauffement, bien sûr, climatique. Qu'est-ce que ça change véritablement sur le terrain aujourd'hui? J'imagine que la montagne n'est absolument pas épargnée. Quelles en sont les conséquences, Elisabeth Revol?
Il y a énormément de choses, en fait, qui bougent. Donc, je pense que les premières choses qu'on a vues, ça a été le retrait glaciaire. Et puis maintenant, ce sont des éboulements où il y a simplement le permafrost en fait qui dégèle. Donc c'est le ciment qui est à l'intérieur en fait des roches. Et donc ça dégèle et ça fait des gros éboulements de tours granitiques qui sont très conséquentes. Donc c'est sûr que le réchauffement climatique depuis 2003, je pense, c'est là où on a vu le premier impact avec la chute du pilier Bonatti.
C'est l'effondrement, c'est ça, du pilier Bonatti, oui.
Voilà. Et puis depuis, ça a été crescendo. Et quand les étés sont extrêmement chauds, comme on a eu l'été dernier, il faut considérer en fait la pratique dans le massif où l'été, presque l'alpinisme il n'a plus sa place dans le massif du Mont-Blanc.
Ah bon ?
Il faut aller grimper autour parce que c'est des structures qui sont trop instables et trop dangereuses sur les tours granitiques.
Jean-Marc Rochette, l'aile froide par exemple que vous avez donc dessinée, elle a changé depuis l'époque où vous l'avez...
Il y a trois voies en face nord d'aile froide, la dévige Rasuti, la voie des plaques et puis le glacier long. Le glacier long, c'est devenu une pente très douce, alors qu'avant c'était très la voie des plaques. Il y a plus des plaques. Mais par exemple, dans le massif des Écrins, il y a une chose qui est terrible, c'est qu'il y avait un glacier qui était très très symbolique, c'est le glacier carré de la Meige en face sud, qui était vraiment un drapeau. Hein, on voyait que lui, il n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fin de saison, c'est une face sud qui maintenant est sans neige, quoi. Et pour tous les amoureux du massif, remonter les étançons et voir la Meige sans son glacier carré, c'est un marqueur de changement radical.
Pierre-Henri Franck. Je suis monté cet été au Mont-en-Vert pour faire une course. J'avais pas vu la mer de glace depuis 5 ou 6 ans. La transformation est très spectaculaire en 5 ou 6 ans. Maintenant, la mer de glace, elle est grise, elle est vraiment très très laide désormais. Et quand vous voyez les photographies du 19e siècle, elle est hyper haute. Et quand vous devez aller descendre désormais sur la mer de glace, ben vous avez un trou de 300 mètres, hein, de 250 mètres. Il faut passer par des échelles. Alors à la descente, c'est difficile. À la montée, après votre course, c'est encore plus difficile.
Est-ce que du coup, la législation a bougé des lieux où on pouvait pratiquer l'alpinisme? On ne peut plus le pratiquer de ce fait-là, via le patriarcat?
Alors je crois que c'est pas en termes législatifs que ça se passe la plupart du temps, mais c'est effectivement dans les pratiques. Les guides ont déjà adapté depuis au moins 10 ans leurs pratiques. Il y a des voies que leurs parents ou que eux-mêmes faisaient plus jeunes et qu'ils ne font plus, ou ils n'emmènent plus de clients en tout cas, parce que les abords sont devenus beaucoup plus difficiles. Par exemple, sur la voie d'accès au Mont Blanc, puisqu'on en parlait tout à l'heure, là, c'est clair qu'il y a des périodes, notamment au mois d'août, où l'accès est non pas interdit parce que ça n'est pas possible, mais en tout cas fortement décommandé avec des gendarmes de haute montagne qui sont en bas pour déconseiller aux alpinistes de monter. Donc oui, ça change la pratique. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est non seulement que la montagne est touchée par le réchauffement climatique, mais je pense que ça a été un avant-poste. C'est une sentinelle, c'est un milieu sentinelle. Et c'est l'un des milieux où on a vu le plus tôt l'effet du réchauffement climatique, notamment aussi parce que les températures montent beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus importante dans les Alpes. Par exemple, c'est 2 degrés de plus en un siècle, alors qu'en plaine, on va être à 1 degré à peu près.
Je crois que cet été, il a fait 7 degrés au sommet du Mont Blanc,
oui.
Un jour ou deux. On n'avait jamais vu ça, 7 degrés.
L'alpinisme, donc, on l'a appris, a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO le 11 décembre dernier. Ça change quoi, Elisabeth Revol?
Ben ça va, je pense, questionner un petit peu. Enfin, en tout cas, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à la pratique et peut-être par rapport à une réglementation. Et puis après,
c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou appliquer?
Appliquer, je sais pas exactement, mais après, c'est sûr qu'il faut conseiller en fait un petit peu les grimpeurs sur justement ces périodes où c'est un petit peu fragile, il faut faire attention. Donc, on parlait de voilà, pas interdire le Mont Blanc, mais
je vais les conseiller.
Voilà, annoncer des choses un peu plus flash en disant mais voilà, là on vous déconseille fortement d'aller dans le massif, aller grimper dans les aiguilles rouges ou aller grimper en calcaire l'été, ça sera beaucoup plus sain quoi. Donc je pense qu'il va y avoir voilà quelques codes un peu à établir et à repenser par rapport à ça.
Pierre-Henri Franck.
Je pense que c'est symbolique essentiellement.
Ouais.
Enfin, pour moi, ça l'est très largement. Comme je le disais tout à l'heure, l'alpinisme fait partie du patrimoine de l'humanité. Ça veut dire que s'il joue quelque chose de l'humanité, de l'universalité de l'homme, et surtout que ce patrimoine est en danger. Et vous voyez, la conscience patrimoniale, elle vient justement quand le patrimoine est en danger et qu'on prend la conscience qu'on risque de le perdre.
Ça vous a intéressé, vous, cette inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, Jean-Marc Rochette?
Non, mais pour moi, l'alpinisme, c'est un des derniers restants, avec le dessin d'ailleurs, de choses qui datent du début de l'humanité. C'est-à-dire que on dessine depuis le début des temps. Et
Sur des parois,
c'est une chose
comme
qui est...
Comme le lien est évident, en effet.
Voilà, c'est une chose qui... Et on monte sur des montagnes, on passe dans des vallées, on va à l'aventure, en fait. Et il y a très peu d'endroits, à notre époque, d'endroits où l'homme peut aller à l'aventure, quoi. Mais même, sans parler des sommets énormes, quand quelqu'un part le matin à 3h du matin dans les Alpes pour faire le coulis, admettons qu'il y a une voie très facile, il a un moment où il se sent comme... Comme au début des temps.
Ce qui est très beau, c'est que quand on est dans le massif du Mont Blanc, c'est celui que je pratique.
Un peu trop d'ailleurs.
On est dans un désert.
On va vous surveiller. Je ne vais pas vous y voir au mois d'août.
Non. On est dans un désert. Vous voyez, dans ce jardin qu'est l'Europe, il y a des lieux où on est seul. Et bon, évidemment, moi, je choisis mes courses pour être seul avec mon guide. Évidemment, je ne fais pas la voie normale du Mont Blanc. Que j'ai jamais faite, c'est ça qui est beau, parce que on est face à la beauté de la nature, on est aussi face à la beauté de la terre. Vous savez, il y a 3 lieux finalement où on est face à la terre elle-même, dans sa sauvagerie, la mer, le désert, la montagne.
Hélène Patriarca, vous, cette inscription, ça vous intéresse ? Cette inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO ?
J'ai du mal à voir autre chose que le
côté symbolique.
Après, je pense que il y a une dans la société actuelle, il y a une méconnaissance de ce qu'est l'alpinisme.
Encore.
Et un désintérêt. Peut-être dans les années 50, on en parlait plus. Il y avait plus d'articles, il y avait plus de grands reportages dans Paris Match et plus de livres. L'intérêt que ça peut avoir, c'est peut-être justement d'expliquer un peu plus, de faire de la pédagogie autour de ce que c'est et d'éviter ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de ce refrain qui revient à chaque accident, voilà, sur l'inutilité, sur l'irresponsabilité.
Exactement. Oui. Ouais. À quel moment il y a eu comme ça une sorte de décélération de la notoriété des alpinistes? En effet, dans les années 50, 60, il y avait des grandes figures très très populaires. Vous parlez de Paris Match, il y avait des grands reportages. À quel moment il y a eu une sorte de désintérêt comme ça médiatique et public? Jean-Marc Rochette, vous voyez? Une sorte de décrochage.
Moi, je dirais qu'il y a eu une acmé avec Messner, oui, quand il a fait les vrais sans oxygène. Il y a eu des acmés dans les Alpes, ça a été les hivernales avec De Maison. Et puis après, il y a eu quelques grands solos avec Profi et tout ça. Et puis après, c'était moins clair, en fait, pour le grand public. C'était moins net. Ça devenait plus spécialiste, c'est-à-dire et donc le grand public s'est détaché de ça, les journalistes aussi, parce que ça reste. On dit oula, il a fait ça, mais ça reste entre nous un peu, quoi.
Elisabeth Revol.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Il y a eu la période sur les 8000, voilà, avec Messner qui a mis un petit peu la pratique himalayiste sous les feux des projecteurs. Et après dans les Alpes, oui, je pense que ça s'est arrêté à Profi et son solo dans les Drues et après sur les Trois Faces Nord où il y a eu un petit peu un système de compétition. Et après, là, je pense que le déclin, il a commencé, parce que finalement, Béraud, on en a moins entendu parler, ça s'est resté quand même dans le milieu très confiné de la pratique des alpinistes et des himalayistes.
Et puis, je pense qu'il y a l'invention de l'escalade en salle. Enfin, peut-être pas l'invention, mais l'expansion de l'escalade en salle. C'est-à-dire, on grimpe sur des prises en résine synthétique. C'est pas mon truc.
On a bien compris, c'est le Mont Blanc.
Mais ça vient aussi peut-être des alpinistes eux-mêmes qui voulaient être moins médiatiques. C'était votre cas, vous le disiez au début de l'émission, que vous souhaitiez pas qu'on médiatise forcément votre montée.
Oui, complètement. Mais après, moi, c'est une démarche qui m'appartient, qui est personnelle. Après, je sais qu'il y a des grimpeurs qui, justement, recherchent cette médiatisation et qui en ont fait leur profession. Après, voilà, moi, c'est pas du tout ma démarche, parce que je pense que quand on va là-bas, il faut qu'on pose les choses et qu'on soit honnête avec soi-même. Et donc, il n'y a pas la place, je pense, pour la partie médiatique.
Jean-Marc Rochette, ce sera le mot de la fin.
Mais il y a quand même des choses exceptionnelles. Il y a eu Honnold, par exemple, El Capitan en solo intégral, qui a eu un Oscar à Hollywood, qui fait parler partout. Donc là, par exemple, c'est le prototype même du grimpeur qui a refait parler mondialement d'un exploit hors du commun.
Eh ben, tout n'est pas perdu. Merci à tous d'avoir grimpé jusqu'à ce studio ici à la Maison de la Radio. Vous restez avec nous tout de suite, c'est le live avec Marion Guilbeault.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Alors, je me souviens, on l'avait reçu en novembre dernier, Marion Guilbeault. Et elle revient ce soir.
Et elle revient. Mais quelle chance on a. Son nouvel album, Myopa, sortira dans quelques semaines, le 21 février précisément. Mais on a la chance donc de vous faire découvrir ce soir, en avant-première, un nouveau titre d'Agnès Obel. Et à propos de son prochain disque, elle confiait que Myopa est un disque qui parle de la confiance et du doute. Peut-on ou pas se faire confiance? Peut-on avoir confiance en ses propres jugements? Est-ce qu'on va agir vraiment comme il faut? Peut-on se fier à ses instincts, à ses ressentis, ou alors est-ce que nos ressentis sont biaisés? Alors, 3 ans après Citizen of Glass, elle poursuit son exploration de la psyché humaine et aussi ses expérimentations sur le traitement du son, sur celui de sa voix, qui est plutôt une voix éthérée, cristalline, et qu'elle a, elle a emmené vraiment dans d'autres tonalités. Elle a travaillé également sur les cordes, sur le piano luthéal, sur le célesta. L'ensemble est toujours aussi impressionnant, magnifique, car Agnès Obel sait, comme personne, transcender la pop et l'emmener du côté du sacré. Agnès Obel, c'est à vous. Broken Sleep, cet extrait du nouvel album Myopa qui sortira donc chez Deutsche Grammophon d'Agnès Obel. Elle est toujours très très bien accompagnée par Anna à l'alto, Christina au violoncelle, Louise aux percussions, la souris King Kong qui veille sur tout ce beau monde. Vous l'avez vu la souris?
La souris King Kong.
Vous l'avez pas vu,
non.
Laurent? Une petite souris.
Ah oui, c'est vrai,
sur le clavier.
Sur le clavier.
D'Agnès Obel, voilà. Elle sera en concert à Nantes le 19 mars, à la scène musicale à Boulogne le 20 mars, Bruxelles le 23, Anglais le 25, et la prise de son est assurée par Mathias Alléon et Nicolas Cazot.
Et merci à tous nos invités. Elisabeth Revol, Vivre ma tragédie au Nanga Parbat est disponible chez Artaud. Jean-Marc Crochette, Aile froide, altitude 3954 et Le Loup sont publiés chez Casterman. Et je rappelle que le catalogue de l'expo Vertige, qui se tient actuellement à la galerie Daniel Maguen, est édité chez Daniel Maguen. Pierre-Henri Frogne, je rappelle que de l'alpinisme, c'est aux presses universitaires de Rennes. Et merci à vous, Eliane Patriarca. Ça, c'était pour le NRV première partie. On va se retrouver dans 10 minutes pour France Inter Plus, mais demain dans le NRV. Elle a fait tous les gestes, Marion Guilbeault. Bruce Lee et son célèbre Bunshaku en live, Marion, demain.
On a rendez-vous aussi avec des électrochocs, c'est ceux de Samba de la Muerte.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, Charles Pélabon à la technique, préparation, programmation, Virginie Rouzic, Clémence Diligent et Benoît Lagan.
Rendez-vous.